Épître aux Corinthiens, donc. Et donc, on était au chapitre 11. Alors, quel est le contexte un peu de notre épître? On avait vu que on était dans une lettre de Paul qu'il avait adressée à l'église de Corinthe, et il avait avant cela eu beaucoup de points à voir avec cette église. Mais on va faire la lecture. On va faire la lecture et on discutera de ça après. Donc, première lettre aux Corinthiens, chapitre 11. Verset 1. On va lire du verset 1 à 16. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je lis dans la version seconde 21. Je vous félicite de ce que vous vous souvenez de moi à tout point de vue et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai transmises. Je veux cependant que vous sachiez ceci. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, en revanche, qui prie ou qui prophétise la tête non couverte déshonore son chef à elle. En effet, c'est exactement comme si elle était rasée. Si une femme qui n'a pas la tête couverte, qu'elle se tonde aussi les cheveux. Et s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux tondus ou d'être rasée et qu'elle se couvre donc la tête? L'homme n'est pas tenu de se couvrir la tête puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu. La femme, elle, est la gloire de l'homme. En effet, ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Voilà pourquoi, à cause des anges, la femme doit porter sur la tête une marque d'autorité. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît de la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable pour une femme de prier Dieu sans avoir la tête couverte? La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs, alors que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée pour servir de voile? Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, et les églises de Dieu non plus. Alors, si vous écoutez ce texte comme ça, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit immédiatement? S'il y a un mot que vous devriez, qui vous vient à l'esprit après cette lecture, ce serait lequel? Ou l'expression, ou qu'est-ce que ce texte suscite? Quel mot vous diriez? Qu'est-ce que vous diriez? Alors je vais le relire. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous félicite de ce que vous vous souvenez de moi à tout point de vue et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai transmises. Je veux cependant que vous sachiez ceci. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise à la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, en revanche, qui prie ou qui prophétise à la tête non couverte déshonore son chef à elle. En effet, c'est exactement comme si elle était rasée. Si une femme n'a pas la tête couverte, qu'elle se tonde aussi les cheveux. Et s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux tondus ou d'être rasée, qu'elle se couvre donc la tête. L'homme n'est pas tenu de se couvrir la tête puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu. La femme, elle est la gloire de l'homme. En effet, ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Voilà pourquoi, à cause des anges, la femme doit porter sur la tête une marque d'autorité. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, et l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît de la femme. Et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable pour une femme de prier sans avoir la tête couverte? La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs? Alors que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée pour servir de voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, et les églises de Dieu non plus. Alors ça nous dit quoi ce texte? Il y a un mot qui ressortirait. C'est un petit défi, toujours ce texte il paraît, et ce que pas de prétention d'avoir les clés ce matin, non. Parce qu'il y a beaucoup de barrières culturelles entre nous et ce texte, beaucoup de barrières de vocabulaire également. Et il va falloir beaucoup d'explications. Alors dans quel contexte sommes-nous pour commencer? Nous sommes à l'an 56 de notre ère et Paul écrit une lettre donc à l'église de Corinthe. Et il a commencé par dénoncer leur orgueil, leur division. Puis l'église a besoin d'être de discipline, certains membres de l'église avaient besoin de discipline, il a parlé de ça. Et il y avait des questions également que l'église posait avec des réponses pastorales de l'apôtre. Et puis là maintenant, l'apôtre arrive dans une section où il va parler de la façon de se rassembler pendant le culte, pendant les trois chapitres qui viennent. Et il aborde la façon de se rassembler avec des recommandations. Et l'objectif de Paul n'est pas de donner des instructions ici entre les hommes et les femmes, mais plutôt les instructions concernant le déroulement des cultes. On est dans ce contexte-là. Et quand les chrétiens sont rassemblés ensemble, vous le savez, le Seigneur est au milieu d'eux. Et c'est quelque chose que l'on doit garder en tête par rapport au contexte de ce texte, ce qui est autour du texte, donc. Quel est le code social en vigueur dans la Grèce du 1er siècle? Pour les apparitions en public, puisque quand on vient à l'église le dimanche, on s'habille d'une façon différente de ce qu'on est à la maison, et peut-être même encore d'une façon différente de ce qu'on s'habille pour nos activités dans le travail ou les activités de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de ce qui se passait au 1er siècle? Les occasions de mixité entre les hommes et les femmes, dans la culture grecque, c'était pas fréquent, ni chez les Romains. C'était pas fréquent que les hommes et les femmes soient ensemble dans un lieu public en même temps. Pour les cultes, dans les synagogues, il y avait une place, une salle réservée pour les hommes et une salle réservée pour les femmes. C'était pas la même, ils étaient pas ensemble, ils rendaient pas le culte ensemble. Et chez les Grecs, les femmes, elles étaient, vous savez, absentes de beaucoup de manifestations. C'était que les hommes. Mais quand elles sortaient en public, les femmes respectables portaient un voile. C'était seulement les prostituées et les esclaves qui ne portaient pas de voile. Leurs conditions étaient différentes. Il y avait un code vestimentaire qui donnait la condition des personnes. C'était comme ça. Et s'il y avait une femme qui était tondue, c'était un petit peu comme ça s'est passé à la fin de... Ça se passait à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez, toutes les femmes qui ont collaboré avec des Allemands, elles ont été publiquement tondues et c'était une honte, donc, pour marquer une opprobre, et c'était un petit peu comme ça dans la culture grecque du 1er siècle, une femme qui était prise en adultère, par exemple, elle allait être tondue publiquement, chose comme ça. Et par contre, eux, les hommes, ils pouvaient aller la tête nue, là où ils voulaient, ils n'étaient pas du tout tenus de porter quelque chose sur la tête. C'était comme ça quand on sortait en public à ce moment-là. Alors, on pourrait observer notre texte maintenant. On a des petites informations. Je vais mettre le texte sous les yeux. J'espère qu'on arrivera à le lire. Donc, j'ai fait un peu comme je faisais à l'époque, de souligner des mots, souligner des expressions, pour voir ce qui ressort dans notre texte, qu'est-ce qui remonte comme ça quand on regarde qu'est-ce qu'il y a écrit à l'intérieur. Alors, vous allez voir qu'il est question beaucoup des hommes et des femmes. Le mot homme et femme revient souvent, c'est rempli des mentions des hommes et des femmes. Vous avez entendu et vous le voyez là, 14 mentions de l'homme, 14 fois le mot homme est écrit, et à une fois la mention il, et pour les femmes c'est encore plus, 16 fois l'apôtre Paul a écrit le mot femme, avec 16 mentions, elle, etc. Donc ça occupe beaucoup du texte. Il est question de tout ce qui est se couvrir la tête. Alors le mot tête, je l'ai mis en rouge ici, parce que en fait, tête et chef, c'est le même mot. Hein. Donc quand on lit ici, Christ est le chef de tout homme, c'est Christ est la tête de tout homme. L'homme est la tête de la femme et Dieu est la tête de Christ. Et donc tous les mots en rouge sont les mêmes en fait. Tout ce qui est les mots en italique en rouge sont les mêmes. Hein. Tout ce qui est en rouge, après il y en a qui sont, ils étaient gras, mais ça se voit pas beaucoup. Et il est question ici d'être rasé. Il y a beaucoup de mentions également à la chevelure ou à ce qui est sur la tête ou le voile, etc. 12 fois le mot tête revient, ou chef, selon notre traduction, mais c'est le mot tête. Et se couvrir la tête, dont il y a 6 mentions de la chevelure, et 7 fois la question de se couvrir avec la chevelure. Hein. Et il est question de Dieu et de Jésus-Christ également, que j'ai souligné ici en bleu. Et il est question d'une activité spirituelle dans la communauté, dans l'Église, qui est de prier et prophétiser. On prie Dieu et on prophétise au nom de Dieu. On parle au nom de Dieu. Et donc on est bien dans un culte. Alors cette fameuse mot tête, qu'est-ce que c'est ce fameux mot qui est traduit tantôt par chef, tantôt par tête? Ben, si vous prenez le logiciel Bible Online, vous mettez dessus le mot tête pour avoir la correspondance numéro de Strong là en grec, pour avoir le mot grec, et vous regardez partout où ce mot est utilisé. Ah ben 80, je sais pas, j'ai pas fait la comptabilité, mais 95% du temps, c'est relatif à la tête, à l'organe. Hein, quand ce mot-là, il est relatif à l'organe, képhalé, ça se dit en grec. Et quasiment tout le temps, il est utilisé pour désigner la tête, l'organe. Quelquefois, il désigne l'idée de principal. La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle, la tête de l'angle, littéralement. C'est la tête de l'angle. Donc cette idée, il était utilisé pour désigner quelque chose qui est principal. Également chef, comme c'est traduit ici, vous avez tout pleinement en lui qui est la tête, le chef de toute domination et de toute autorité, en Colossiens 2:10. Et dans les textes de Éphésiens et Colossiens, c'est exactement dans les Corinthiens ici, l'usage du mot chef ou tête, on ne sait pas trop ce qu'il faut mettre. Donc il est question, Jésus est la tête de son Église, le chef de son Église qui est son corps, Et donc, il transpose également cette image-là pour les relations dans le mariage, les époux et l'épouse qui sont l'image donc de Jésus-Christ et son Église, tête et corps. Alors, que conclure de tout cela ? Il y a des traductions qui ont mis tête partout, et d'autres qui ont mis tête et chef. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot tête, et quel est derrière le mot, dès qu'on le désigne par l'organe, ici c'est traduit par chef, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot chef ? Que veut dire le mari est le chef de la femme ? Alors, il faut écarter l'idée de domination ou de directeur ou de patron. Ce n'est pas le sens commun qu'il a pour tout ce qui est les relations dans le travail. Dans le travail, on a un chef qui nous donne des ordres, des instructions et à qui on rend compte. C'est pas ce sens-là. On peut pas le rapprocher de ça. Et pourtant, ça a un sens quand même, hein, dans cette direction-là. Mais pas de directeur, pas de domination, surtout. Ni de question d'être le patron, hein, celui qui dicte les ordres. C'est pas ça. C'est pas ce sens-là, en tout cas, qu'il faut retenir. Donc, on peut retenir l'homme et le chef de la femme, mais il faut vraiment sortir l'idée de domination, de direction. Celui qui dirige, vous le savez, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui donne les ordres, les instructions, parce qu'il est Seigneur. C'est quelque chose qui est différent. Il y a également une question délicate à comprendre, c'est la question de l'autorité. Le Seigneur a redéfini ce qu'était l'autorité. Est-ce que j'ai rien oublié de mes notes ? Oui, par rapport à chef. Il y a des expressions de tête qu'on retrouve en français. Je vais, avant de passer à l'autorité, la question de l'autorité, qu'on retrouve en français, la tête désigne l'organe en français. La tête désigne aussi être devant. Hein. Les papiers en tête, en haut du papier, il y a l'en-tête de la société, etc. Marcher en tête, quand on a une file, il y en a un qui marche devant, il est en tête. Faire un tête-à-queue, hein, dans une voiture, c'est quand l'arrière passe à la place de l'avant. Donc nous, on a cette notion-là, hein, en français. Et également, la question de la direction, être à la tête d'une société, diriger une société, hein, ou faire la course en tête, c'est quand on est en tête, en la première place. Il y a également une expression dans le français, dans le vieux français, qui dit tête à chef, hein. On parle de couvre-chef. Un couvre-chef, c'est un chapeau, hein. C'est le couvre-chef. Voilà. Et on sait que la casquette et le chapeau est aussi un signe d'autorité. Quand vous êtes dans le contrôleur de train, et ben, il a sa casquette. Et puis quand les gendarmes vous verbalisent, il a besoin que d'une chose, c'est d'avoir sa casquette. S'il n'a pas la casquette, hein, il n'est pas en position de gendarme, il est en position civile. Mais c'est quand il met la casquette, ça y est, il est en position de gendarme, il représente les autorités. Donc ça c'est en français, et donc on voit qu'il y a des images, hein, de mots tête, et en grec également. Mais on a du mal à saisir ce que c'est cette question de tête et de chef dans la pensée de Paul. Mais je vais y revenir. Donc la question de l'autorité. Jésus-Christ est venu et il a redéfini l'autorité. Hein. Marc, pourquoi je parle de l'autorité? Parce qu'il y a cette petite verset 10 là. Voilà pourquoi, à cause des anges, la femme doit porter sur la tête une marque d'autorité. On va voir ça maintenant. Marc 10, un passage qu'on avait vu ensemble quand on avait vu l'évangile de Marc. C'est le verset clé de Marc. Marc 10, je vais lire à partir du verset 41. Il est question de la faveur qu'avait demandé les deux des disciples, d'être l'un à sa droite et l'autre à sa gauche, qui avait scandalisé les autres disciples, bien sûr, puisqu'il demandait une faveur qui pouvait être accordée qu'à deux personnes. Et donc Jésus a répondu ceci. Il leur dit, vous savez que ce qu'on regarde comme les chefs des nations, et ça c'est pas le mot, même mon chef, c'est le mot de dominateur, hein, dans le grec, les tyrannise et que les grands les dominent. Il ne doit pas être de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon de beaucoup. Jésus-Christ était celui qui avait l'autorité. Et donc, il a redéfini un petit peu ce qu'était l'exercice de l'autorité pour ses disciples. Alors, qui a l'autorité? Est-ce que c'est l'homme ou est-ce que c'est la femme entre les deux? Ah ben dans notre texte, c'est tous les deux qui ont l'autorité. Hein. C'est le fameux verset 10. Dans la version seconde, il n'est pas traduit de cette façon-là. Si quelqu'un l'a ouvert, il pourrait le lire à la version seconde. Bon, je vais le faire. C'est toutes les traductions du passé, enfin de nos prédécesseurs. Ils traduisaient plutôt ainsi le verset 11. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. C'est ce dont elle dépend qui a été rajouté mais qui n'est pas dans le texte. Paul dit simplement, la femme doit porter sur la tête une marque d'autorité. Et les traducteurs donc ont eu beaucoup de mal à accepter, et leurs lecteurs sans doute aussi, que c'était une marque d'autorité en fait de la femme. C'est comme ça. C'était comme ça que Paul l'a écrit. Alors c'est maintenant comme ça que les traductions il a fallu attendre la fin du 20e siècle pour que le peuple de Dieu accepte ce que Paul avait écrit en fait, hein. C'est que la femme a l'autorité pour prier et pour prophétiser. Elle a l'autorité pour cela, hein. L'homme est l'image de la gloire de Dieu. Dieu n'a rien au-dessus de lui, hein, en quelque sorte, il n'a rien au-dessus de sa tête. Et ainsi, les hommes ne portent pas de couvre-chef, puisqu'ils sont l'image de Dieu, et Dieu n'a rien, aucune autorité au-dessus de lui. Et pour la femme est la gloire de l'homme. Et l'homme, lui, par contre, il a quelqu'un au-dessus de lui, qui est Dieu. Et donc la femme, gloire de l'homme, porte un couvre-chef, hein, dans l'Église. Et au minimum, elle porte sa chevelure. Je disais, nos gendarmes, ils ont besoin que de leur casquette pour représenter l'autorité de l'État. Et les femmes portent donc dans le culte pour affirmer qu'elles ont l'autorité de prophétiser et de prier Dieu directement. Elles tirent leur autorité de Dieu, puisqu'il les a créées à l'image de l'homme et de la femme. Mais il y a une sorte de code vestimentaire. À cause des anges, dit Paul, la femme doit porter sa casquette, qui est sa chevelure ou une coiffe, qui représente le fait qu'elle a l'autorité pour prier, pour prophétiser, comme les hommes. Donc, vous serez peut-être pas très satisfait avec la façon dont j'ai présenté les choses. C'est très ouvert. C'est une question qui est très ouverte et qui a donné beaucoup de coulées d'encre, on dit, dans l'Église. Et c'est pas un texte qui est facile à aborder de ce côté-là. Voilà la façon dont je vous le propose. Hein. Il faut bien savoir que tête, chef, c'est le même mot. Qu'on a du mal à cerner le sens qu'avait Paul dans ce mot, mais je vais y revenir. Et l'idée de l'autorité ici, là il faut abdiquer la marque d'autorité. C'est pas une marque, le fait que il demande aux femmes d'utiliser leur chevelure comme voile ou d'utiliser de porter un voile. C'est pas pour marquer qu'elle l'homme a une autorité sur elle, mais c'est pour marquer qu'elles ont l'autorité de prophétiser et qu'elles ont l'autorité de prier dans l'Église. Et il dit à cause des anges. Alors bon, il faut accepter au bout d'un moment. Je saurais pas vous dire pourquoi. Il doit y avoir des raisons. Moi, je ne les connais pas précisément. Mais c'est ainsi que voyez les choses, en tout cas pour le culte du premier siècle, l'apôtre Paul. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir pour les appliquer pour nous aujourd'hui? Je crois que ce qui est certain, c'est que les hommes et les femmes sont définitivement différents. On connaît bien les différences physiologiques entre les hommes et les femmes. Ça, c'est clair, je crois, pour tout le monde. Mais il y a aussi une différence de position ou de rôle, où il manque notre vocabulaire français, il manque un mot là qui pour définir ça. Paul avait choisi le mot tête. L'un est la tête de l'autre, voilà. On peut dire au chef si on veut, mais il y a la définition de ce mot nous échappe un petit peu. Quel sens ça a? Et il y a un dressing code, hein, créationnel également, qui est associé à cette différence qui était la chevelure. Les hommes et les femmes ont des chevelures différentes. Depuis, les hommes perdent les cheveux, hein, assez facilement, et depuis les femmes les gardent et les entretiennent. C'est comme ça depuis toujours. Donc les hommes et les femmes sont différents et on n'arrive pas à mettre des mots précis là-dessus. Jésus-Christ a aboli la domination de l'homme sur la femme. Au fur et à mesure des siècles, vous le savez, l'homme avait pris un petit peu trop de pouvoir, de domination sur la femme, et il a aboli cette domination-là, Jésus-Christ, quand il a venu. La femme a un accès à Dieu de la même qualité que l'homme. Alors il y a, dans notre texte, on le voit, une tentation pour la femme de convoiter la place de l'homme, de revendiquer une place de tête. Et c'est ce qui semble apparaître dans le problème qu'il y avait dans l'église de Corinthe, c'est qu'il y avait des femmes qui, voilà, elles prophétisaient, elle priait, mais elle ne prenait pas garde à se couvrir les cheveux comme il était d'usage à ce moment-là. Donc un petit peu comme si elle voulait se revendiquer donc cette place de tête. Et il y a aussi, si la femme est tentée de revendiquer cette place-là, l'homme est tenté peut-être aussi d'abandonner sa place, d'abandonner cette position de tête, de ne pas en prendre toujours toutes les responsabilités. Alors, qui commence par qui? Est-ce que c'est les hommes qui ont abandonné leur fonction de tête et c'est la femme donc qui a pris la place, ou est-ce l'inverse? Je saurais pas dire. En tout cas, notre société au XXIe siècle souffre un petit peu de ça. Il y a une confusion des genres qui est entretenue et qui est montée en épingle, et qui fait que ça amène quand même beaucoup de troubles dans la société, même si c'est pas non plus des questions de vie et de mort. Hein. Donc une tentation pour la femme de convoiter la place de l'homme, hein, c'est quelque chose qui ressort de notre texte. Il y a des convenances sociales à respecter dans le déroulement des cultes. Hein, c'est un petit peu comme pour la consommation de viande, je pense. Les viandes sacrifiées aux idoles, ceux qui avaient la connaissance à Corinthe avaient tendance à dire bah, les idoles, ça n'a pas de sens, ça n'existe pas, moi je peux manger de la viande dans les temples, c'est de la viande, point. Elle est bonne, et puis pourquoi je m'en priverai? Et Paul dit non, non, parce qu'en faisant ça, en fait, tu fais un piège à ceux qui... pour qu'ils viennent juste de sortir du paganisme, et c'est vraiment, tu peux les faire chuter, et il ne faut pas faire ça. Et donc on est un petit peu aussi peut-être dans cette idée-là, hein. Le culte qu'on a en commun, ben, c'est pas fait pour humilier, pour choquer un frère ou une sœur. L'objectif du culte, c'est d'adorer le Seigneur, et il faut pas perdre ça de vue. Le Seigneur est présent, et on l'adore. Le culte n'est pas une tribune pour faire des histoires. Hein. Alors vous êtes peut-être sur votre faim, moi aussi. Je voulais tenter la semaine prochaine d'explorer un petit peu le verset 3, parce que Paul dit, il explique en quelque sorte hein, ce mot chef, Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Et donc la relation de tête ou de chef entre l'homme et la femme est encadré par la relation entre Dieu et Christ, et entre Christ et l'homme. Et donc là, il y a une piste à explorer. Alors courageusement, la semaine prochaine, je voulais essayer de voir un petit peu qu'on arrive à comprendre ça, pourquoi, pour se l'approprier, et pour qu'on, dans l'Église, on arrive... On peut pas dire qu'on ait je vois pas qu'on ait des problèmes avec cela, mais de s'améliorer, du moins d'être à l'aise et d'être en paix et en harmonie sur cette question-là des relations entre les hommes et les femmes. Et que ça serve, ça peut être, c'est quelque chose dont le monde a besoin de voir, hein, de voir des hommes et des femmes qui sont épanouis, où il n'y a pas de guéguerre, où il n'y a pas de stigmatisation, mais de vivre paisiblement une relation avec Dieu selon ce qu'il a prévu depuis toute éternité. Et là donc on dépasse complètement les relations dans le couple, on est dans les relations vraiment entre les hommes et les femmes dans la sphère publique. Alors je vais en rester là pour aujourd'hui. On n'a pas beaucoup de chants qui illustrent ça, mais il y en a un quand même, le 638, que vous pouvez chercher. Et puis je vais prier. Seigneur, nous sommes devant ta parole et c'est vrai que il y a des fois des choses qui nous dépassent un peu, mais on n'est pas obligé de tout comprendre. On est obligé de par contre, il est bon de te faire confiance dans les instructions que tu donnes. Aide-nous à les saisir, pour que nous ayons des cultes qui te soient agréables. Et Seigneur, c'est ça que nous voulons. Nous voulons le bien-être et l'harmonie les uns et les autres, que chacun dans le couple, dans l'église, les hommes, comme les femmes, soient parfaitement à l'aise, sentent parfaitement à leur place, Seigneur. C'est ce que nous soupirons, comme toi tu l'as prévu de toute éternité. Nous savons que notre ennemi veut sans cesse mettre la zizanie entre les hommes et les femmes, mettre la discorde. Mais Seigneur, nous ne voulons pas ça, et nous nous attendons à toi également pour ta seule gloire. Dans le nom de Jésus. Amen.